Chapitre 8. En ramenant Justicien et ses officiers aux résolutions énergiques commandées par les circonstances, Théodora avait mérité dans le Conseil de l'Empire la place que peut-être elle avait usurpée jusqu'alors. Si l'on croit sur la foi de Procope aux hontes de sa jeunesse, du moins doit-on reconnaître que l'ancienne funambule put désormais jouir, sans la même confusion, de tout le luxe, de toutes les adulations, de tous les honneurs dévolus à une impératrice d'Orient. Et qu'était-ce que ces monceaux d'or, de perles et de pierreries, ce merveilleux palais de la rive d'Asie, l'Éréon, où Théodora résidait pendant l'été, ces thermes magnifiques où elle se reposait de longues heures, cette foule de suivantes et de serviteurs, qu'était-ce que ces hommages des grands de l'État et des ambassadeurs étrangers qui n'approchaient l'impératrice qu'après s'être prosternés et lui avoir baisé les pieds? Qu'était-ce que ces statues érigées à sa gloire, ces civils portant son nom, Théodorias, Théodora, Théodoropolis? Qu'était-ce que cette cour de patrice, de sénateurs, de magistrats, cette escorte de 4000 gardes qui accompagnèrent Théodora aux eaux chaudes de Bithynie, ces arcs de triomphe élevés sur son passage, ces palais construits pour la recevoir? Qu'était-ce que ces trésors, ce faste, ces apothéoses auprès de la puissance souveraine? Justinien ne cachait pas qu'il s'en référait sur toute chose à l'impératrice. Il le publiait même dans ses lois où il nommait Théodora la révérendissime épouse que Dieu nous a donnée. Paul, le cil entière, dans la dédicace du poème sur Sainte-Sophie, rappelle à Justinien que la défunte impératrice a été pour lui une fidèle collaboratrice. Procope, Évagre, Zonard, la plupart des chroniqueurs byzantins s'accordent à dire que Théodora était non pas seulement l'épouse de Justinien, mais une impératrice souveraine, qu'elle était aussi puissante que l'empereur, sinon davantage. Des faits nombreux confirment ces témoignages, et d'ailleurs, l'Empire déclina après la mort de Théodora. Donc, sans aller jusqu'à prétendre avec Brunet de Presles, ce maître S-chose de Byzance, que Théodora fut l'âme des conseils de l'empereur, il faut néanmoins attribuer à cette femme une part importante dans l'œuvre de Justinien, législateur, architecte et conquérant. Théodora, peu clémente aux hommes, était connue pour sa sollicitude, sa miséricorde, sa faiblesse même envers les femmes. C'est ainsi qu'elle se mêlait volontiers des mariages et qu'elle intervenait dans les ménages désunis. C'est ainsi qu'elle contraignit Artaban, gouverneur d'une province d'Afrique, à vivre avec sa femme, qu'elle accueillit avec faveur les malheureuses filles d'Hildéric, roi des Vandales, qu'elle se montra trop indulgente pour Antonina, femme de Bélisaire. Il semble donc que Théodora a inspiré à Justinien les nombreuses lois qu'il rendit en faveur des femmes. Lois sur le divorce, l'hypothèque des femmes, la légitimation des enfants naturels, le rapt des religieuses, la répression du proxénétisme. Lois libérant les comédiennes du servage perpétuel, autorisant les filles séduites à se faire épouser ou à exiger le quart des biens du séducteur, obligeant les dignitaires à constituer une dot à leurs femmes, réglant les droits des femmes dans les successions. Magnifique comme l'était Théodora, on est assuré qu'elle ne chercha pas à arrêter Justinien dans ses immenses dépenses pour la reconstruction de la capitale détruite par les incendiaires. Loin de chercher à modérer chez l'empereur la passion de bâtisseur, elle faisait élever elle-même nombre d'édifices. On cite des forts, des églises, des orphelinats, des crèches, des hôpitaux, construits d'après ses ordres exprès, ainsi que le fameux couvent du Bosphore pour les filles repenties. Parfois, la charité de Théodora allait jusqu'à la tyrannie. La légende conte que quelques-unes des femmes qui, rachetées de la prostitution par l'impératrice, avaient été enfermées à la métanoïa, furent prises d'un tel désespoir qu'elles se jetèrent dans la mer. Ce n'était point seulement à Constantinople que s'élevaient les palais et les basiliques. Les frontières de la Perse, la Syrie, l'Égypte, la Cyrénaïque, la Numidie, l'Italie, témoignaient par leurs nouveaux édifices de la magnificence de Justinien. Tant de millions perdus, ou plutôt que d'or transmué par la plus belle des métamorphoses en monuments superbes, manifestations éclatantes du génie de l'homme. Dans la mosaïque de San Vitale à Ravenne, Théodora, le front nimbé, apparée, éblouissante de pierreries, de perles et de gemmes, comme une vierge byzantine sur le champ d'or d'un iconostase. Elle semble présider, sous les yeux de son époux, à la naissance d'un nouvel art grec qui, durant de longs siècles, va rayonner sur le monde. Les deux grandes guerres de conquête de Justinien sont la guerre d'Afrique et la guerre d'Italie. Du côté des Perses, il s'agissait plutôt de protéger les frontières que de les étendre. Les campagnes contre les Vandales et contre les Goths, qui devaient donner au règne de Justinien la gloire des armes et rendre à l'Empire presque tous les territoires qu'avait possédé l'ancienne Rome, Théodora, ambitieuse et hardie, contribua à les faire décider. L'esprit d'aventure, peut-être aussi la vanité de l'emporter sur les conseils pusillanimes de Jean de Cappadoce, qu'elle haïssait, et le désir de venger son protégé Hildéric, roi des Vandales, détrôné par Gélimère, l'engagèrent à pousser à la guerre d'Afrique. Pour l'expédition d'Italie, elle avait une autre raison. Ne pensait-elle pas que Rome, soumise à ses armes, c'était le pape à sa discrétion, c'était le triomphe de ses opinions religieuses? Les guerres engagées, on découvre souvent l'action toute-puissante de Théodora dans les ordres aux généraux et aux ambassadeurs, les rappels et les nominations, les envois de renforts, les négociations diplomatiques. On sent que les affaires sont menées par la petite main qui, au moment de la reprise des hostilités avec la Perse, signait cette lettre à Zabergannès. « Je suis convaincu, depuis la mission que tu as remplie auprès de nous, de l'intérêt que tu portes à nos intérêts. Tu répondras à cette opinion en persuadant au roi Cosroès de prendre envers notre empire des dispositions pacifiques. Si tu réussis, je te promets les plus magnifiques récompenses de l'empereur qui ne décide jamais rien sans me consulter. » Jalouse de son pouvoir et sûre de sa puissance, cette femme ne souffrait pas qu'on résistât à ses ordres ni qu'on lui fît la moindre opposition. Priscus de Paphlagonie, devenu secrétaire intime de Justinien, s'était emparé de la confiance de son maître et affecté de ne considérer l'Augustin que comme la femme de l'empereur. Théodora chercha d'abord à le perdre dans l'esprit de Justinien par des paroles calomnieuses. L'empereur ne les écoutant pas, l'impératrice fit une nuit saisir Priscus dans sa maison. On l'embarqua un continent pour l'Afrique où, dès son arrivée, il reçut les ordres de prêtrise. Désormais, il ne pouvait plus exercer aucune fonction civile. Justinien, qui n'aimait point à récriminer, surtout contre sa femme, feignit d'ignorer cette insigne violence et ne tarda pas à oublier Priscus. Théodora ne haïssait pas moins Jean de Cappadoce, nommé de nouveau préfet des prétoires d'Orient après la répression de l'émeute de 532. Mais à l'égard d'un tel personnage, elle ne pouvait employer des procédés aussi simples. D'autre part, Justinien était sourd à toutes ses représentations, à toutes ses prières, à toutes ses calomnies, en admettant, ce qui est douteux, qu'on pût calomnier Jean de Cappadoce. Théodora conçut d'une machination abominable. Antonina, qu'elle avait formée à être sa complice, docile et toujours prête, eut un entretien secret avec Jean de Cappadoce. Elle lui parla des griefs de Bélisaire contre Justinien, du mécontentement des grands et du peuple, et demanda au préfet d'entrer dans la conspiration qui se tramait pour déposer l'empereur. Séduit par les promesses et les flatteries, le Cappadocien accepta un rendez-vous qui devait être décisif dans une maison située hors des murs. Justinien, que l'on n'avait pas manqué de prévenir, envoya Narcès et Marcellus, comte des gardes, pour assister invisible à l'entretien. Convaincu de trahison, Jean de Cappadoce fut destitué de ses charges et dignités et exilé en Afrique. Privé de tous ses biens par la confiscation légale, il mourut dans la dernière misère. Le piège que lui avait tendu l'impératrice était odieux, mais l'indigne ministre méritait tous les châtiments. Le peuple de Constantinople ne plaignit point l'homme que sa cupidité, son oppression, ses dénis de justice avaient voué à l'exécration. Sa chute fut une délivrance. Si l'on sut qu'on la devait à Théodora, l'Augusta dut être regardée ce jour-là comme une bienfaitrice. Les colères de Théodora firent malheureusement d'autres victimes. Elle était sans pitié pour ceux qui comprenaient mal ses ordres ou qui ne les exécutaient qu'à demi, afin de les concilier avec les instructions parfois contraires de l'empereur. le sang de Calinis, d'Arsenius, de Rodon, supplicié par ses ordres ou sur ses instances, crie contre elle. Quant aux exécutions secrètes que Procope raconte avec la haine de Nébété, selon le mot de M. Taine, aux tortures et aux fustigations dont Théodora se serait plu à donner le divertissement dans les souterrains du palais, ces imputations paraissent rentrer dans ce que M. Ernest Renan appelle « des commérages de ville grecque d'une incroyable absurdité ».